j'entends beaucoup de... Donc, les feuilles sont sur les chaises, il y en a de chaque côté. On va essayer de temps d'entrer. On va commencer avec un mot de prière. Oui, Père Céleste, on veut te louer ce matin car, Seigneur, tu es saint, tu es présent parmi nous et tu nous aimes. Seigneur, ce matin, on te prie que tu puisses guider notre cœur, qu'on puisse apprendre à se rapprocher de toi, Seigneur, et vraiment avoir un cœur qui cherche à comprendre tes vérités bibliques. Parle à travers moi, Seigneur, que je puisse exposer clairement ce que disent les Écritures. Et merci pour ce temps ensemble qu'on peut avoir en tant qu'Église pour apprendre un peu plus sur toi. Donc, ton Fils qu'on te prie. Amen. Donc, la semaine passée, je me rappelle encore que c'était intéressant de voir toutes les questions qui ressortaient. Donc, il y avait beaucoup de questions sur tous les temps. Puis, je sais que Yannick a dû à la fin finir rapidement. C'est un sujet qui est parfois... intriguant ou passionnant quand on parle de l'esprit. Êtes-vous d'accord que c'est pas un sujet qu'on enseigne souvent? Hein? C'est pas un sujet qu'on enseigne souvent et c'est pour ça que Yannick avait commencé cette série là-dessus. En passant, pour ceux qui savent pas, Yannick, il n'est pas ici aujourd'hui, donc je le remplace ce matin. Il va y avoir quelqu'un aussi à la prédication, Richard Hull, qui va le remplacer. Donc, pour aujourd'hui, donc tout le monde a les feuilles, on va parler au niveau de la prière. Et par rapport à la prière, on se pose souvent la question, tout le monde sait qu'il faut prier. Mais comment prier? Quoi prier? Est-ce que vous êtes déjà demandé la question, qui prier? Hein, est-ce qu'on prie le Père? Est-ce qu'on prie le Fils? Est-ce qu'on prie le Saint-Esprit? Est-ce qu'on devrait prier le Saint-Esprit? Question que. Avez-vous déjà posé cette question-là? Je bouge beaucoup, hein? Il est débarqué? C'est bon. OK. Donc, est-ce qu'on devrait prier le Saint-Esprit? Quand on regarde au niveau de toutes les réformes qu'il y a eu dans une Église, l'accent a toujours été sur la prière, la force de la prière. Et Martin Luther, on voit dans ses écrits, passait beaucoup de temps, souvent on le voit comme le réformateur, comme... mais il y a eu beaucoup de réformes au niveau de la prière aussi, parce qu'il a vraiment mis beaucoup d'emphase sur apprendre à la congrégation comment prier, qui prier, quoi prier. Puis c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui, ce matin, c'est un peu apprendre à prier bibliquement. La façon qu'on va le faire, c'est on va regarder ensemble certains aspects de la prière par rapport au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Puis après ça, on va voir quel est le rôle de l'Esprit dans la prière, puis sortir une mise en pratique de ça. Donc, aujourd'hui, on va regarder plusieurs versets. C'est pour ça que je vous ai mis les notes. J'ai carrément mis les versets dans les notes. Comme ça, on va pouvoir suivre ensemble. Et ça va nous aider à avancer. Donc, c'est bon? OK. Premièrement, prier, apprendre à prier bibliquement. Quand on regarde dans Luc 11, verset 1, vous l'avez dans les notes, Jésus pria un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » C'est quand même intéressant de voir ici que Jésus était en train de quoi? De prier. Ses disciples ont été le voir en disant, « Apprends-nous à prier. » Okay? Pourtant, les disciples étaient avec Jésus et lui ont demandé d'apprendre à prier. Il compare à qui? Comme qui l'a appris à ses disciples? Jean-Baptiste. Êtes-vous d'accord que c'est intéressant? Hein? On ne voit pas Jean-Baptiste, on voit le Jean-Baptiste, l'évangéliste. Est-ce qu'on l'associe vraiment toujours à un homme de prière? Je ne suis pas sûr que c'est quelque chose qu'on fait souvent ressortir. Pourtant, les disciples ont dit... Apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a montré à ses disciples. Puis c'est quand même intéressant de voir que dans les réveils, dans les mouvements, quand on voit des choses arriver, la force de la prière est tellement importante. Puis on pense à l'évangélisation, apprendre à prier bibliquement, c'est que la prière est imbriquée dans tous les autres domaines de la vie, que ce soit dans la lecture de notre parole, dans l'adoration, dans l'évangélisation. On voit que c'est vraiment le principe d'apprendre à la prière, c'est un point important. Quand on regarde dans notre société aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de divergences d'opinions sur qu'est-ce qu'on devrait prier, comment prier, etc., selon vous? Êtes-vous d'accord que, parce que parfois on ne retourne pas à la Bible pour apprendre comment prier. Les disciples, eux, n'avaient pas toutes les lettres de Paul avec des exemples bibliques de prière. Il n'y avait pas justement la réponse de Jésus. Ils voyaient un peu certaines choses, puis ils disaient à Jésus, « Apprends-nous à prier. » Nous, on a la parole de Dieu, des exemples bibliques, et on se demande encore aujourd'hui, parfois, comment prier, quoi prier. Il y a vraiment un danger dans le monde que si on n'étudie pas la parole de Dieu sur la prière, comment prier, qui prier, quoi prier, il y a un danger, êtes-vous d'accord, qu'on arrive avec toutes sortes d'idées. Par exemple, il y en a qui vont imaginer Jésus qui est devant eux. Toutes sortes d'images. Jésus qui est devant eux, puis il lui parle comme s'il était ici sur cette chaise. Puis carrément, il le voit sur cette chaise. D'autres qui vont dire, il y a des expériences mystiques, toutes sortes de... Ils vont essayer d'aller chercher là, des choses un peu ésotériques presque par rapport à la prière. Pourtant, c'est pas ce qu'on voit dans les Écritures. Et ça ne veut pas dire que l'Esprit peut travailler dans la prière. On va le voir aujourd'hui. Parfois même, au niveau de la lecture de la parole... Et le lien avec la prière, êtes-vous d'accord que parfois dans les églises, on met tellement d'emphase sur la Bible que des fois, on met un peu moins d'emphase sur la prière. Pourtant, on voit l'importance des deux. Puis c'est dans nos églises baptistes, on est reconnus pour être des gens de parole, mais on ne veut pas diminuer la prière. Au contraire, on veut prier bibliquement. Quand on regarde dans le rôle des diacres dans Actes 6, il y a eu une instauration des diacres pour que les anciens puissent se consacrer à quoi? Les diacres ont été instaurés pour que les anciens puissent focusser sur l'enseignement de la parole et la prière. Il y avait les deux. C'est quand même spécial. C'est comme si Yannick nous disait, « OK, j'en ai beaucoup trop maintenant, j'ai pas assez de temps pour prier. » Il me semble que peut-être une réaction pourrait être « t'as pas assez de temps pour prier bon, ». Il me semble que c'est normal si tu nous dis « j'ai pas assez de temps pour préparer mon école du dimanche ou pour préparer mon sermon », mais dans ton horaire, pas assez de temps pour prier. Pourtant, c'est ce que la Bible nous dit, l'importance et le lien entre les deux. Puis vraiment de mettre ça en priorité par rapport à la prière. Quand on regarde dans 1 Timothée 4, 13, on voit « jusqu'à je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation ». À l'enseignement. Okay? Donc, c'est clair que Paul disait à Timothée, applique-toi à la lecture, à l'enseignement, à l'étude de la parole. Regardez dans 1 Timothée 2, versets 1 et 2. J'exhorte donc, quoi? Avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Voyons-nous l'important que même... Puis, c'est intéressant, Paul dit à Timothée, oui, il faut que tu lises la Bible, oui, il faut que tes progrès soient évidents à tous, oui, il faut que tu prêches la parole. Mais avant toute chose, quoi? Priez, êtes-vous d'accord? Priez, c'est ce qu'on voit. Puis la relation entre les deux, de prier, prier bibliquement, selon la parole, on voit que c'est un point qui revient continuellement dans les Écritures. Mais je pense que tout le monde ici est d'accord sur l'importance de prier, oui? La puissance de la prière, que la parole nous l'enseigne, de prier bibliquement en s'appuyant sur les Écritures. Donc, on va se concentrer un peu plus maintenant sur prier qui? Avant qu'on regarde ça, est-ce qu'il y en a qui ont des opinions? On devrait prier qui? Le Père. Par Jésus-Christ. D'autres opinions? On devrait prier. OK. Donc, le Saint-Esprit fait toutes ces choses-là. Ça, je pense qu'on est d'accord qu'il nous éclaire, il nous console, il nous guide. On va le voir d'ailleurs un peu plus tard. Est-ce qu'on devrait prier? On va y répondre. Est-ce que... Oui. Oui. OK.
Le Père, Jésus, prier en son nom.
OK.
Comme intercesseur auprès du Père, mais il dit quelque part, c'est la Trinité.
OK. Fait,
quand on prie un, j'imagine qu'on prie deux
OK? Bon, on va le voir. Je ne vais pas y répondre tout de suite. Juste, on fasse un. C'est toi, si je répondais tout de suite, on aurait fini. Oui? Oh, intéressant ça. Intéressant, intéressant. Proche. Très proche. Ce qu'on regarde dans les Écritures, elle vous déjà demandé la question? Ben, on va le regarder ensemble. On va découvrir ensemble. Je ne vais pas. Êtes-vous d'accord des fois qu'on se demande, puis des fois, moi, je suis quelqu'un, j'aime ça, les chiffres et tout ça, puis je me dis, est-ce que je prie presque juste le Père? Est-ce que j'équilibre avec le Fils? C'est quoi l'équilibre? On va regarder ça ensemble. T'sais, je pense pas qu'il y aura une réponse aujourd'hui. On va dire il faut prier X pourcentage de temps, le Père, le Fils. Mais on va voir certains principes ensemble. Puis au lieu de regarder, au fond, on peut peut-être avoir une opinion. On va essayer de regarder des versets, puis on va se former une opinion par rapport à ça. Donc, c'est clair que, oui, la Bible enseigne de prier le Père. D'ailleurs, on regarde Jésus-Christ lui-même dans Jean 17.1. En fait, oui, dans Jean 17.1, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Ou dans Matthieu 6.9, quand que les disciples demandent comment prier, comment est-ce qu'ils commencent? Notre Père. Donc, on voit Jésus lui-même, il aurait pu dire aux disciples, « Priez Jésus, tu sais, qui n'aurait pas été fou en passant, on va le regarder plus tard. Mais il enseigne, il a prié, il dit « Notre Père ». Puis c'est là où il met l'emphase. Puis c'est intéressant parce que je pense qu'un des principes qu'il faut avoir dans les Écritures, on regardera après si c'est bon, faux, mais un des principes des Écritures, c'est d'essayer de se coller à comment est-ce que la Bible nous enseigne à prier bibliquement, à qui, comment, quoi, puis comment est-ce qu'on peut être un miroir de ça par rapport à notre vie de prière. Donc, c'est clair qu'on doit prier le Père. Paul, on voit, prie le Père. J'ai mis plusieurs références, entre autres dans Éphésiens 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. On prie ici le Père. Oui, juste finir. Puis on prie le Père. Qui envoie l'esprit? On regarde ici, dans le verset qu'on vient de lire, Éphésiens 3, verset 14. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Qui donc envoie l'esprit? Le Père. Gardez ça en tête. Le Père envoie l'esprit. Oui. Oui, oui, tout à fait. Là, on pourrait. En fait, c'est ça. Donc, est-ce que tous les êtres humains, donc si on regarde dans Genèse 1:26, on voit que l'homme a été créé à la ressemblance de Dieu. On voit que il y a un trait que les gens ont. Maintenant, enfant de Dieu, dans la Bible, clairement la façon qui est indiquée, c'est d'être au Seigneur. Tu sais, est-ce qu'ils sont de la, comme on voit ici, toute famille tire de son nom. Ben, au fond, ça dit que Dieu a tout créé. Donc, pour revenir à la question, je crois que Dieu est à l'écoute. Je veux dire, Dieu il connaît tout, est à l'écoute. Non seulement est à l'écoute, mais il voit tout. Donc, je pense que peu importe qui adresse, mais la question maintenant, donc je pense que Dieu est à l'écoute. Je pense maintenant la question c'est est-ce que Dieu répond et tout ça. C'est une autre discussion parce que dans un certain cas, Dieu est en communion avec ses enfants réels, est en communion avec ses enfants réels. Maintenant, est-ce qu'il est à l'écoute dans ses voies mystérieuses? Est-ce qu'il pourrait utiliser le cri de quelqu'un pour l'amener à Christ? Oui, dans son plan mystérieux qu'on connaît pas toujours, mais c'est clair que la communion avec le Père, c'est les enfants de Dieu. Pourquoi? On va y arriver justement quand on va parler du Fils. Parce qu'en fait, puis j'ai mis ici trois mots, saint, 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 pour revenir un peu. Dieu est trois fois saint. Est-ce qu'on a accès au Père sans le Fils? Non. Ça serait faux de penser que quelqu'un qui, justement, qui dise, Moi, je parle au Père, je ne crois pas au Fils, mais je parle au Père. Le Père est saint, trois fois saint. Nous n'avons pas accès au Père. Et d'ailleurs, quand on se met à vraiment réfléchir, j'étais en vacances la semaine passée, et j'ai lu un livre, ça s'appelle « The Holiness of God », la sainteté de Dieu, par R.C. Sproul, puis c'était vraiment intéressant. Tout le livre parlait à quel point Dieu est saint, et nous sommes loin, mais grâce à Jésus-Christ, nous sommes en communion avec Dieu. Puis plus on le lit, plus on regarde la justice de Dieu. Vous vous rappelez dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui a touché à l'arche, qu'est-ce qui est arrivé? Il est mort. Puis là, on dit, oh boy, Dieu, ouais. Tu sais, on peut avoir les tentations de dire, ouais, Dieu, il est Dieu. Non, Dieu est saint. Puis dans sa justice, un Dieu saint ne peut pas permettre que quelqu'un ait accès au lui, tout simplement comme ça, parce que Dieu est saint. Même Moïse, quand il se rapproche à Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit? Enlève tes souliers parce que ce lieu est saint. Tu sais, c'est Dieu est saint. Donc, nous prions le Père, mais il y a quelque chose ici pour être en communion avec le Père qui manque encore. Êtes-vous d'accord avec moi, comme enfant de Dieu? C'est justement, c'est qui? C'est le Fils. Donc, si vous tournez la page avec moi, puis quand on prie, par exemple, Dieu le Père, un point que je voulais mentionner, on prie Dieu le Père. On peut dire Père Céleste, il y en a qui vont dire Papa. Hein, il y en a qui, si on dit Seigneur, est-ce qu'on prie le Père, le Fils, la Trinité? Ben c'est rare qu'on dise je prie la Trinité. D'ailleurs, on ne le voit pas dans les Écritures. Donc, si on revient à. Mais, oui. OK, on prie le Père au nom du Fils. Donc, on peut dire Seigneur. Seigneur, au fond, ça veut dire quoi? C'est que je me mets sous l'autorité, je reconnais que c'est le Seigneur qui est au contrôle de ma vie. Donc, oui, c'est le Père. On le voit d'ailleurs dans bibliquement, la réponse, c'est les deux. Dans bibliquement, on voit la référence Seigneur adressée au Père, on voit la référence adressée au Fils. Parfois, on va dire Seigneur Jésus. OK, donc on voit que c'est un terme qui peut désigner le Père ou le Fils. Bon, prier le Fils. C'est quand même intéressant quand on regarde les Écritures, qu'on voit la majorité des références, j'irais beaucoup de références, plus de références au Père qu'au Fils. OK, bon, on parle de l'Ancien Testament, bien sûr, adressé au Père. Et au Nouveau Testament, on voit certaines prières aussi qu'on retrouve par rapport au Fils. Ça, on en regarde quelques-unes ensemble. Dans Actes 7, 59, Étienne, avant de mourir, a prié le Fils. Donc, acte 7, 59. « Et il lapidait Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Donc, juste avant de mourir, Étienne dit, « Seigneur, Jésus. » Donc, on voit qu'il s'adresse à Jésus. Dans 1 Corinthiens 1, verset 2. Donc, on voit Paul qui s'adresse aux Corinthiens. « À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus, leur Seigneur et le nôtre. » Pourquoi l'emphase autant sur invoquer le nom de Jésus? Pourquoi l'emphase est aussi fort sur « je m'adresse à tous ceux qui invoquent le nom de Jésus » au fond, ça revient à « il s'adresse aux enfants de Dieu ». Ceux qui invoquent le nom de Jésus. Mais si on regarde les deux points suivants, ça va nous aider à comprendre. Premièrement, Jésus, dans Hébreux 4, verset 14, on voit qu'il est notre souverain sacrificateur. Okay? C'est lui qui intercède pour nous. Vous vous rappelez dans l'Ancien Testament, le lieu très saint? Vous ne pouvez pas tout simplement rentrer dans le lieu très saint. Okay? Mais Jésus-Christ, d'ailleurs, toute l'Épître aux Hébreux parle de ça, comment que Jésus est venu mourir une fois pour tous pour être notre souverain sacrificateur, pour nous donner libre accès au Père. Donc, Hébreux 4, verset 14 à 16. « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » On voit donc que c'est Christ qui est le souverain sacrificateur qui permet cette communion avec le Père. Êtes-vous d'accord? Et on le voit à plusieurs autres places. On voit que ce lien avec le Père, dans 1 Jean 1, verset 3, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec vous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Donc, on peut même dire « par Jésus-Christ ». Il est notre médiateur. On voit dans Hébreu, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. » On voit ici donc le médiateur, on voit dans d'autres passages, dans 1 Jean, le terme « avocat », hein, notre avocat qui plaide, qui intercède pour nous, Jésus-Christ qui est notre médiateur. Au fond, c'est lui qui permet la transition. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est intéressant de voir, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent l'histoire de Jacob et de l'échelle. Vous vous rappelez de l'histoire? Juste pour ceux qui ne la savent pas, donc Jacob, il fuit, hein, vous vous rappelez? Il était il a donné le lieu après de nom de Bethel. Il était couché, puis tout d'un coup, il voit une vision des anges qui montent et qui descendent sur une échelle. Quand on se met à analyser ce passage-là, selon vous, qui est l'échelle? Voyez-vous? Puis les commentateurs s'entendent pour dire là-dessus que l'image ici puis d'ailleurs, quand on regarde les interactions, l'image ici, c'est Jésus qui est là à l'échelle. Parce que Jésus permet à un Dieu qui est trois fois saint dans les ciels, qui permet justement qu'il y ait un lien. Puis je trouve que c'est une belle image pour vraiment que ça solidifie. Tous les versets parlent de Jésus qui est notre médiateur, mais c'est une belle image pour carrément voir le ciel qui est loin, où il y a Dieu qui est juste, qui est saint, qui est éternel, et celui qui permet ça, c'est Jésus-Christ. Donc, oui, en fait, c'est ça. Dieu est tellement saint. Rappelez-vous, Moïse qui a voulu voir Dieu. Parce qu'il y en a qui se rappellent de ça. Moïse, à un moment donné, a voulu voir Dieu. Dieu lui a dit, c'est parce que, regarde, si tu me vois là, tu vas mourir. OK? Si tu vois, tu vas mourir. Donc, ce qu'on va faire, là, c'est que tu vas t'installer là, là. Je vais passer devant toi. Tu vas me regarder juste de dos. Puis là, puis qu'est-ce qui est arrivé? Moïse, quand il a fait ça, tout d'un coup, il y avait une espèce d'auréole autour de lui. Hein? Quand il est revenu voir son peuple, les gens ont dit, « Ouf, il y a quelque chose, il brille. » Parce que, justement, on ne peut pas voir Dieu en face et vivre. Et c'est là, l'image est très forte. Puis tout à fait. Donc, Jésus, lui, peut s'approcher librement de Dieu et nous représenter. Puis c'est important de... On va arriver après ça à l'esprit, mais c'est important de toujours se rappeler c'est quoi le plan de Dieu dans l'histoire. Dieu qui est saint envoie son Fils. Puis on va continuer après ça le reste de l'histoire, mais pour qu'il soit notre médiateur. Donc, toute la Bible pointe vers Christ, qui est notre médiateur. Il représente Dieu auprès des hommes et représente les hommes auprès de Dieu. Hein, c'est à double sens aussi. Bon, maintenant, quelqu'un avait dit, au nom de Jésus, par Jésus qu'on prie. Vous êtes d'accord que souvent dans nos prières, on va finir en disant, au nom de Jésus. Pourquoi on dit ça? Pourquoi on ne dit pas tout simplement, à la limite, on pourrait à la limite pas le dire, mais ça devrait être implicite que c'est au nom de Jésus. Mais pourquoi ça? Exactement. Puis je pense que c'est important de se rappeler ça, même si on ne le dit pas cette phrase-là, parce que la Bible ne nous enseigne pas de dire toujours les mêmes phrases, etc., mais que ça soit implicite dans notre tête, au moins. Moi, je crois que c'est bien de le dire, mais que ça soit implicite au moins dans notre tête de reconnaître que je ne suis pas en train de dire, je m'adresse au Père par mes propres forces, puis garde, Michel, là, hey, papa, Michel te parle, là, en mon nom, puis garde, j'ai besoin de tout ça. C'est la Bible, voyez-vous? Puis là, j'exagère un peu, mais c'est facile de tomber dans le piège de dire, hey, Dieu, garde, il faut qu'on se parle. Non, Dieu est loin, il est saint, et nous donne accès à lui par le nom de Jésus, parce qu'on est appelé enfant de Dieu. Êtes-vous d'accord? Qui est l'enfant de Dieu? Qui est le fils de Dieu? Jésus. La seule raison qu'on peut être appelé enfant de Dieu, c'est parce que le Fils de Dieu nous dit, regarde, viens avec moi, là. Viens avec moi, je vais te donner accès au Père et nous sommes appelés enfants de Dieu. Mais le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ, oui. Tout à fait. Mais c'est un peu le principe qu'on disait que Dieu est en communion avec, je veux dire, Dieu, Jésus est en communion carrément, comme enfant de Dieu, avec ses enfants. Par contre, ça n'empêche pas, comme on disait, juste un mouvement, on voit que Dieu connaît tout, les cheveux sur notre tête, les mouvements d'un oiseau, on voit. Donc, il nous écoute aussi, peu importe qu'on soit sauvé ou non. Maintenant, la question, c'est, est-ce que Dieu rentre en communion? Est-ce que Dieu répond à tout moment? Dieu peut se servir des occasions, comme j'imagine c'était le cas, pour justement nous parler et aussi pour nous amener à lui. OK? Faut pas confondre ça non plus avec un d'autres concepts. Là, je rentrerai pas là-dedans, là, mais Stéphane avait enseigné là-dessus sur la grâce commune non plus. Tu sais, il y en a qui vont dire, ben, regarde, moi, je parle à Dieu des fois, je crois pas vraiment en Jésus, mais regarde, j'ai plein de belles choses qui se passent dans ma vie. Ça ne veut pas dire que nécessairement que Dieu est en train de dire je te bénis parce que tu me parles et que tu as une communion avec moi. Tu sais, il y a une grâce commune, puis c'est parfois ça. On voit que même c'est pas parce qu'on a juste une relation avec Dieu qu'on a des belles choses. Donc oui, ça peut arriver. Il y a un principe de grâce commune et aussi le principe que Dieu peut utiliser des occasions pour nous parler et d'ailleurs pour nous amener à lui. Si on voit que, on l'avait vu la semaine passée, c'est l'Esprit qui nous attire vers le Seigneur. On le voit dans Jean 6 et dans d'autres passages. Bien, quelque part, il y a un travail qui est fait avant même qu'on arrive au Seigneur. Donc oui, certainement qu'il y a un travail qui commence. OK. Donc, oui. Tout à fait. Mais d'ailleurs, si on est un enfant de Dieu, on a accès au Père. Mais on a accès au Père. Je pense que le point ici, c'est d'ailleurs, la Bible nous l'enseigne de dire, quand on prie, Jésus lui-même a dit, on commence avec notre Père. Donc, c'est tout à fait biblique, et même, c'est pas juste biblique, c'est ce que la Bible enseigne de prier notre Père. Le point que je veux être sûr qu'on comprenne et de faire ressortir, c'est qu'on a accès au Père au nom de Jésus et par Jésus-Christ. Voyez-vous, donc si je prends les psaumes puis que je dis « Éternel des armées, tu es mon refuge, ma forteresse », c'est tout à fait biblique là-dessus. Et c'est sûr que le Nouveau Testament va amener plus de distinctions aussi avec l'arrivée de Jésus. Dans les prières, on voit un peu plus de distinctions entre Jésus, le Père, on va voir après ça le Saint-Esprit, mais les gens s'adressaient au Dieu le Père. Et d'ailleurs, moi j'encourage à ce qu'on s'adresse à Dieu le Père, puis c'est ça que Jésus enseigne. Mais toujours se rappeler qu'on adresse Dieu le Père au nom de Jésus parce que c'est lui qui permet cette communion-là. C'est bon? Et d'ailleurs, c'est ça, on voit dans Jean 1, verset 12. Je pense que c'est le verset 15. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Voyez-vous le lien? Il y a plein de liens ici entre les différents intervenants. On n'a pas reçu un esprit de servitude, donc on n'est plus dans la servitude, on n'est plus esclave, pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. On l'avait vu tantôt, l'esprit vient du Père, par lequel nous crions « Abba, Père ». Donc, on peut crier « Abba, Père » comme Jésus lui-même s'est adressé au Père. Puis on peut le faire à travers, avec l'aide du Saint-Esprit. On commence à clarifier un peu. Oui, on va. C'est « Abba », c'est « Père », c'est le cri, c'est carrément ça, c'est le cri. Oui, c'est ça, je pense en araméen, ça veut carrément dire. Puis il y a une communion là-dessus, là. c'est très fort. Ah oui, OK, c'est bon. Mais il y a une certaine relation, il y a une tendreté là-dedans, dans le mot. C'est pour ça que les deux sont répétés. Père, mais c'est, il y a une tendre, un mot tendre par rapport à ça. Tu sais, c'est ça. Pardon? Oui, tout à fait, exactement. C'est le principe, justement, d'un mot tendre. C'est comme si, ben, oui, dans le langage québécois d'aujourd'hui, on pourrait dire papa, père et tout ça. Donc, on voit Jésus qui s'adresse aussi à Abba. Tu sais, c'est vraiment une relation. Là, c'est, on voit Dieu le Père, ouh, il est au ciel, il est saint, mais Abba, tu sais, c'est comme c'est ce Dieu-là qui nous aime, qui prend soin de nous, puis que. Je crois qu'il est ailleurs aussi. Oui. Oui, je crois qu'il est à deux ou trois places dans la Bible. OK, priez le Saint-Esprit. Donc, on y arrive. Donc, avant de regarder les références bibliques, on va voir juste un peu l'histoire là-dessus. Okay? Qu'est-ce qui est arrivé dans l'histoire? Donc, c'est pas quelque chose qu'on aurait trouvé au tout début de la chrétienté. Donc, au deuxième siècle, on voit que le concept, dans les écrits qu'on a pu retrouver, est introduit pour la première fois de louer le Saint-Esprit. Mais on n'a pas retrouvé de prière encore par rapport à prier le Saint-Esprit avant, puis je l'ai mis ici, avant le 10e siècle. Donc, c'est venu beaucoup plus tard. Dans les credos qui ont été formés, les credos, ce que c'était au fond des confessions de foi. Et pourquoi ça a eu lieu? C'est que les gens, par rapport à la Bible, étaient prêts à dire, OK, on va écrire ce qu'on croit. Comme ça, on est prêt. Donc, voici tout ce que je crois. Tu sais, d'ailleurs, on a un credo ici à l'Église. Quand on prend le cours de membres, on regarde le credo ensemble. Nous, on croit ça. Puis, pour les disciples et les gens qui suivaient dans les premiers siècles, ils avaient écrit ce credo aussi pour être prêts à mourir pour ce credo-là. Comprenez-vous? Ils disaient, moi, je crois à ça. Si tu me demandes de renier ça, donc c'est pas que c'est... distiller les Écritures, au contraire, c'est plus un résumé. Tu sais, je crois au Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, je crois à l'autorité de la Bible qui est seule inspiration de Dieu, etc., etc. Mais, dans certains cas, il y avait des gens qui avaient commencé à modifier ces credos-là. Okay? Puis c'est là où, justement, on voit le credo Nice-Constantinopolitain, où on voit l'Esprit aussi bien que le Père et le Fils est adoré et glorifié. Sans faire une grosse parenthèse là-dessus, on voit dans les Écritures que le Fils est soumis au Père. Êtes-vous d'accord avec moi? Le Fils est soumis au Père. Et les premiers credos enseignaient ça. Le Fils soumis au Père avec l'œuvre du Saint-Esprit qui travaille en nous. Certaines personnes, en fait, c'était le mouvement arien, qui disaient, ah, c'est ça, hein? Donc le Fils est soumis au Père, donc il est un demi-dieu. Il n'est pas un dieu, il est un demi-dieu. Puis là, certaines personnes... Ah, il a encore débarqué, hein? Merci. Certaines personnes, en réaction à ça, ont dit, non, 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 il n'y a pas de demi-dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Voyez-vous? D'autres personnes ont pris ça par la suite, ont dit, OK, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, égal, en disant, ah, il faut tous les adorer. Donc, c'est là où ça, on n'est pas encore rendu dans bien, pas bien, mais c'est là où ça a eu dans le mouvement de l'histoire. On voit des prières à partir du 10e siècle qui apparaissent en disant, on l'a retrouvé en Australie, « Esprit créateur, augmente notre foi et guide-nous. Okay? » Donc, s'adresser directement au Saint-Esprit. En 1667, on voit l'Église anglicane qui sort carrément un livre de prières quotidiennes où on voit carrément souvent des prières qui s'adressent au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et même à la Trinité. Donc, Sainte Trinité, tu sais, c'est... on voit des prières dans l'Église anglicane. L'Église catholique, on voit la litanie de l'Esprit. On voit plusieurs, on l'entend parfois, comme l'Esprit, on voit « au rayon du ciel » ou « auteur de toutes bonnes choses » ou « au consolateur ». Tu sais, c'est s'adresser directement à l'Esprit. L'Église orthodoxe a prétendu qu'elle a une approche très balancée par rapport à la Trinité en disant « oui, il y a Dieu le Père ». Mais ils voient ça comme deux bras. Il y a Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et on prie donc les trois là-dessus. Et bien sûr, le mouvement charismatique qui est plus courant aujourd'hui, où on va voir l'invoquer l'Esprit est même vu comme un trait de piété. Hein? C'est vu comme, ah, lui, il est spirituel. Il invoque l'Esprit, il prie à l'Esprit, puis il passe beaucoup de temps là-dessus. Puis, ah, lui, là, il est... Tu sais, puis donc, il y a beaucoup d'emphase qui est mis là-dessus. OK? Donc, si vous tournez la page, les références bibliques, combien est-ce qu'on en voit? Prier au Saint-Esprit. Il n'y en a aucune dans la Bible. Il n'y a aucune prière directement au Saint-Esprit. Il y a un passage que certains vont citer, on n'aura pas le temps de tout le regarder, mais dans Ézéchiel 37, versets 9 à 14, on voit par rapport aux... Je ne sais pas s'il y en a un qui se rappelle l'histoire des eaux desséchées, puis on voit que c'est clair ici que c'est Dieu qui s'adresse à Ézéchiel, puis il dit « Prophétise et parle à l'Esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, Esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts, etc., etc. » Donc, on voit que c'est une vision prophétique ici, que Dieu s'adresse à Ézéchiel, dit « Regarde, va prophétise, dis-là ces choses-là. » Et c'est ce qu'on voit dans le reste du passage. Donc, on voit dans le contexte que Dieu dit « Adresse-toi à l'Esprit. » Si vous regardez dans votre Bible, l'Esprit est écrit, j'ai bien écrit ici, avec un « E » minuscule, donc « S'adresse aux esprits ». Va, réveille-toi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Donc, on voit que c'est le Seigneur l'Éternel qui parle. Donc, c'est assez clair quand on regarde ce passage-là qu'on ne s'adresse pas ici au Saint-Esprit, puis on lui dit, oh, Saint-Esprit, c'est une vision prophétique. À part de ça, il n'y a aucune référence biblique par rapport à prier au Saint-Esprit. Par contre, est-ce qu'il y a des prières où on prie par le Saint-Esprit? Avec la force du Saint-Esprit. OK, excellent. Donc, on va regarder justement certains versets ensemble. Donc, Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Qu'est-ce qui nous donne la force dans la prière? Le Saint-Esprit. Puis c'est quand même intéressant. Hein? Faites en tout temps. C'est pas de temps en temps là, que le Saint-Esprit t'aide à prier puis à adresser des requêtes. C'est en tout temps l'Esprit qui est en nous. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Quelqu'un l'a mentionné tantôt. Même des fois, quand on a de la misère à prier, où vient cette force-là? Le Saint-Esprit qui, parfois, va même prier pour nous, n'est-ce pas? On le voit dans Romains 8. Oui, on y arrive, oui, on y arrive. Mais tout à fait, oui, oui. Mais c'est quand même intéressant, Jésus demande au Père d'envoyer. De même aussi l'Esprit, donc Romains 8, verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voyez-vous le lien ici? Qui intercède pour nous? Donc, notre médiateur, donc Dieu le Père, à qui on s'adresse, celui qui nous permet de s'adresser au Père, Jésus-Christ, celui qui nous donne la force et qui nous aide dans notre marche chrétienne en général, et ici on regarde par rapport à la prière, pour intercéder pour nous, qui nous encourage, qui parfois même, quand on est découragé, va pousser des soupirs et des soupirs inexprimables, ben c'est Saint-Esprit. Voyez-vous le lien entre les trois? Est-ce qu'il y en a un des trois qui est moins Dieu? Les tous sont Dieu. Mais êtes-vous d'accord que ce n'est pas parce que tous sont Dieu, les trois en fait sont Dieu, ils ont des rôles différents, il n'y a personne qui est en rôle d'infériorité. Êtes-vous d'accord? Il n'y a personne qui est en rôle d'infériorité. Chacun un rôle, je m'adresse au Père, Créateur de toutes choses, le Fils qui est venu mourir pour nous, le Saint-Esprit qui nous encourage et d'autres choses aussi qu'on va voir un peu plus tard. Donc, d'où vient ce concept de prier le Saint-Esprit? Parce que si on l'a vu dans l'histoire, il doit y avoir des gens qui, je veux dire, ils ont vu que dans les Écritures, ce n'est pas adressé. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Quelqu'un l'avait dit tantôt au début. C'est le concept de la Trinité. Êtes-vous d'accord avec moi? Donc, si, il y en a qui vont dire, d'ailleurs, un des puritains, John Owen, a dit que si Dieu est trinitaire, alors on doit communiquer avec chaque personne de la Trinité. Il faut faire attention maintenant. C'est là où j'apporte justement des nuances pour aider. Est-ce qu'on doit communiquer avec chaque personne de la Trinité? Le mot « doit » est fort, êtes-vous d'accord? Est-ce que quelqu'un qui, de temps en temps, s'adresse à l'Esprit, sachant que tous les membres de la Trinité sont Dieu, est-ce que ça serait faux? C'est là où, comme un peu la semaine passée, où Yannick a amené des certaines nuances, je pense que c'est important de dire, si on veut prier bibliquement, on prie le Père, on prie le Fils, au nom du Fils, avec la force du Saint-Esprit. Est-ce que ça serait faux? Puis on dit à quelqu'un, tu es dans le péché parce que quelqu'un s'est adressé de temps en temps à l'Esprit. La Bible ne nous enseigne pas ça. La Bible ne nous enseigne pas de pouvoir dire, OK, tu es dans le péché, dans l'erreur. Autant que la Bible, certainement, ne nous enseigne pas quelqu'un qui dit, ah, toi, tu ne pries pas à l'Esprit. Tu es en train d'attrister l'Esprit en ce moment parce que tu ne pries pas à l'Esprit. Ça serait ça aussi faux d'affirmer ça. Donc, si on revient à notre question de départ, est-ce qu'on doit prier l'Esprit? La réponse, c'est non. Donc, on va continuer. Puis, c'est important de comprendre dans le plan de Dieu. Et je vais vous lire ce que j'ai écrit là-dessus. Dans le plan de Dieu, on voit l'histoire du monde est simple. Dieu crée le monde des pécheurs. La communion avec le Père est brisée. Dieu envoie le Fils mourir pour les pécheurs. Ensuite, à travers le Fils, on est en communion avec le Père, avec l'aide du Saint-Esprit. Voyez-vous la relation entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le Fils qui est notre médiateur, le Saint-Esprit qui nous aide dans notre communion? Et on le voit à plusieurs reprises. Dans Éphésiens 2, 18, « Car par lui, Jésus, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Voyez-vous encore une fois la relation entre les trois. « Car par lui, donc Jésus, permet notre relation, donc nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, tous dans un même esprit. » Oui. Non, c'est ça. Je pense pas que, comme je mentionnais, je peux pas affirmer, je peux pas dire à quelqu'un qui s'adresse au Saint-Esprit est en péché. Autant, comme je disais, que quelqu'un peut pas affirmer que si on s'adresse pas au Saint-Esprit, ça, c'est un péché. Dans les deux cas, c'est pas un péché. Est-ce que c'est la pratique courante qu'on voit en la Bible? Non. Jésus lui-même, par rapport à l'Esprit, c'était ça on voit dans le prochain passage, Jésus lui-même prie le Père pour l'envoi de l'Esprit. Tu sais, Jésus aurait pu dire, OK, Saint-Esprit, descends. Non, il prie le Père pour l'envoi de l'Esprit. Et d'ailleurs, le Père va vous envoyer l'Esprit. Donc, à quelque part, dans la pratique biblique, on revient toujours au contexte que j'essaie le plus possible d'être le miroir dans ma façon de prier par rapport à la Bible. Mais si toi, tu me disais, moi, ça m'arrive de prier le Fils qui prie le Saint-Esprit, je ne peux pas affirmer que c'est une erreur. Mais on va voir un peu plus tard les mises en garde, par contre, par rapport à ça. OK? Puis, OK, on va essayer de clarifier un peu encore. Oui. Bien, des prières au Saint-Esprit, on n'en voit pas. En fait, ce qu'on voit, c'est que les gens, c'est parce que, par exemple, on va juste reformuler, on pourrait dire, Dieu envoie ton esprit. Tu sais, que ton esprit travaille en moi. Moi, c'est comme ça que je vais prier. Okay? Je dis, Seigneur Jésus, que ton esprit travaille en moi, qu'il m'encourage, qu'il me console, qu'il me convainque de pécher. Mais je m'adresse donc au Père, puis je lui demande que son esprit, parce que le rôle de l'esprit, c'est d'agir. Le rôle de l'esprit, c'est, on voit le Saint-Esprit, c'est il est occupé, hein, il est toujours en action. On voit l'esprit qui agit, on va voir un peu les différents rôles rapidement. Mais l'esprit agit, je m'adresse au Père pour qu'il me donne son esprit. Mais on le voit pas dans les Écritures. Encore une fois, je suis pas en train de dire ici, ça serait très présomptueux pour moi d'affirmer ici que c'est un péché de le faire. Par contre, on le voit pas dans les Écritures. C'est un peu ce qu'on discute justement la semaine passée, dans un autre contexte, de dire, je peux pas dire que c'est faux, mais je peux pas, comme si quelqu'un qui dit, ben moi, l'Esprit m'a montré ça. Je peux pas. La seule façon que je peux dire que c'est faux, c'est que si ce que la personne dit est contraire avec les Écritures, parce que c'est clair, quand on regarde un des rôles du Saint-Esprit, c'est d'éclairer les Écritures. OK? Quand Jésus dit, je vous envoie le Consolateur et il vous guidera et vous montrera, vous rappellera les choses que je vous ai dites. Il ne va pas tout d'un coup commencer à inventer des choses contrairement à ce que la parole a établi. Oui? Oui, oui, tout à fait. C'est peut-être... oui, excuse-moi, oui. Oui, tout à fait. Bien, c'est un peu ça que je disais quand on parlait des credos, que Jésus est soumis au Père, exactement, mais ça ne rend pas Jésus comme une partie de la Trinité inférieure. C'est comme il y a Dieu le Père qui est hot, puis là, tu as Dieu le Fils, puis le Saint-Esprit. Non, non, non. T'sais, les trois sont Dieu, les trois sont égales en Dieu, mais par contre, oui, il y a des rôles différents, puis le Père est soumis. Parce que nous, on voit ça presque la soumission quand, oh, là, il est inférieur, là. T'sais, on pourrait même faire, en tout cas, on ne rentre pas là-dedans, là. Mais c'est juste que c'est des rôles différents. T'sais, mais on pourrait faire, oui, le parallèle même avec l'homme, la femme, dans les rôles, etc. Est-ce que ça rend quelqu'un inférieur à l'autre? Non. Oui. Exactement, mais c'est pour ça que je dis, l'esprit est en action, est en constant mouvement. Et on va regarder le rôle de l'esprit, je pense que ça va nous aider encore plus à clarifier le concept. Donc, quel est le rôle de l'esprit? Bien, j'ai mis le mot, c'est en constante action. Aider à glorifier Christ. OK, donc on voit dans Jean 16, il y a encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Encore une fois, donc, l'Esprit qui aide à glorifier Jésus-Christ, va nous rappeler les choses. Encore une fois, est-ce que ça veut dire que l'Esprit, c'est pas Dieu? Non, l'Esprit est Dieu. Encore une fois, des rôles différents dans la doctrine du Saint-Esprit, donc, est là pour, justement, nous rappeler de des choses qu'on a vues. Donc, oui, il est avec nous. D'ailleurs, c'est lui qui est en nous, l'Esprit-Saint qui est en nous, puis c'est lui qu'on veut voir agir puissamment en nous. Donc, je pense qu'une grande erreur, ça serait de dire, « Oh, tu sais, faut pas trop l'Esprit. » Non, au contraire, l'Esprit doit être manifeste en nous. On voit le fruit de l'Esprit. Hein? Le fruit de l'Esprit, c'est ce qu'on veut qu'il agisse en nous. Quand il cherchait des diacres ou des anciens, on voit qu'il cherchait des hommes remplis de l'Esprit. Donc, on veut que l'Esprit agisse puissamment en nous. Donc, c'est ça, c'est un de ses rôles, c'est de pointer vers Christ. 2 Corinthiens 3, versets 17 et 18. « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur. Donc, on va une fois encore révéler la beauté de Christ dans sa parole, nous aider à grandir. Jean 4, verset 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. » Voyez-vous? « Que le Père enverra en mon nom. » vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Encore une fois, je le répète parce que c'est important par rapport à l'Esprit. L'Esprit ne doit pas nous montrer des choses contrairement à ce que Jésus a annoncé. En d'autres mots, l'Esprit ne peut pas nous montrer des choses contraires à la parole de Dieu. Et c'était un des dangers dans l'histoire où les gens cherchaient tellement la manifestation de l'Esprit que l'Esprit était rendu, c'est arrivé de... je crois, au 18e siècle avec les Quakers, où l'Esprit de Dieu était rendu aussi fort que la parole de Dieu. Puis si quelqu'un arrivait et disait, « Hey, les frères, hier soir, l'Esprit de Dieu m'a montré ça », c'était arrivé à une certaine étape où ça avait autant d'autorité que la parole de Dieu. Puis il y a un danger là-dessus. Oui. Mais... Mais en fait, une chose qui est claire, quand Jésus s'adresse à ses disciples en disant comment vous devez prier, il dit carrément « Notre Père ». Par rapport à cette référence-là, je sais qu'il parle de ne pas dire « Jésus est bon », mais... quand il dit, par exemple, il y a de maître que Dieu... Je suis pas sûr de cette référence. Oui, c'est ça. C'est ça. Je le vois pas dans la Bible.
Vous avez
oui.
Des enfants,
oui. Ah oh, non, mais en fait, j'essaie de penser, mais ce que vous dites, je le vois pas dans les Écritures. Donc, peut-être que c'est un verset qui... Je ne sais pas. Moi, je peut-être que quelqu'un pourra vérifier puis me revenir. Mais en fait, on ne veut pas revenir trop en arrière parce que le temps avance, mais on a vu plusieurs versets où Jésus dit, quand vous priez, commencez par notre Père. Donc, on s'entend que la Bible ne peut pas se contredire. Il ne dirait pas à quelque part d'autre, non, quand vous adressez à Dieu, dites jamais Père. Il dit carrément, voici comment vous devez prier, notre Père. Oui.
On ne
s'appelle pas
Père.
Ben, c'est ça. Oui.
S'il parle à quelqu'un d'autre. Et dans la Bible, il ne peut pas appeler directeur, il ne peut pas appeler personne Père. Il y en a juste un. C'est le contexte.
Si c'est le cas, ça serait le contexte. C'est clair dans les écritures. On va juste avancer. Mais si quelqu'un là, la référence viendrait me voir, là, je serais curieux. Mais c'est clair que dans les Écritures, ça dit de s'adresser au Père. Puis moi, je veux dire, si ma fille m'appelle papa, c'est ça que je suis. Là. Je veux dire, je suis son père. Donc, je ne vois pas nécessairement de contradiction là-dessus. OK, on continue. Communiquer. Donc, un rôle de nous révéler la beauté de Christ, de communiquer. 2 Corinthiens 13, 14, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu... C'est intéressant, le rôle, chacun, grâce au Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Voyez-vous, encore une fois, on voit les rôles. Ensuite, les dons, donc on ne lira pas le passage, les dons qui viennent de l'Esprit. Consolateur, dans Jean 16, 7, « Cependant, je vous le dis en vérité, ça c'est quand même intéressant comme passage, il vous est avantageux que je m'en aille. » C'est Jésus qui parle ici. Pensez-y deux secondes. Vous êtes un disciple, vous êtes avec Jésus, puis il est en train de vous dire, « Hey, il est avantageux pour toi que je m'en aille. » Il me semble que tu es comme, « T'es Jésus-Christ. Tu sais, tu veux, reste. » Il me semble que c'est avantageux pour que tu restes. Mais il est avantageux. Pourquoi? Juste finir le passage. « Car si je m'en vais, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc, constante que les gens, en venant au Seigneur, on a le Consolateur qui est avec nous. C'est une grande force. Hein? Ne l'oublions pas que le Saint-Esprit, c'est une grande force que Dieu a envoyée pour nous, qui nous encourage, qui nous console, qui nous guide, qui nous aide à comprendre les Écritures, comme on vient de le voir, qui nous aide à comprendre Christ et, comme le prochain verset nous le montre, qui nous convainc du péché. Dans Jean 16, 8, « Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Juste finir avec quelques points pratiques rapidement là-dessus. Donc, prier l'Esprit n'est pas faux théologiquement, comme je l'ai mentionné tantôt. Mais si cela m'empêche de prier le Père, passant par le Fils, avec l'appui du Saint-Esprit, je ne suis pas sûr. Puis c'est important dans les Écritures, puis on pourrait faire ça avec beaucoup d'autres, on n'aura pas le temps de voir plein d'exemples, mais beaucoup d'autres passages où, si on prend une petite affaire des Écritures, puis on en fait un cheval de bataille, puis on le gonfle, 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 on peut se poser la question, est-ce que c'est bien ce qu'on est en train de faire? Est-ce que le fait qu'on fasse ça, par exemple, est-ce que ça diminue la prière par rapport au Père? Est-ce que ça diminue la prière par rapport au Fils, la communion que j'ai avec le Père et avec le médiateur qui est Jésus-Christ? Donc, il faut juste faire attention à les Écritures, puis ça, c'est un bon exemple, de ne pas prendre quelque chose puis dire, « Ah, j'ai donc possiblement le droit, puis je gonfle ça, puis tout d'un coup, je ne prie plus le Père, je ne prie plus le Fils, puis ben là, je ne suis pas en train de prier bibliquement, comprenez-vous? » Si je vais de l'autre côté, si je prie tout le temps Dieu, 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 encore une fois, la Bible nous dit, prier notre Père, Dieu, je veux dire, c'est comme ça que ça m'enseigne de prier. Mais est-ce que dans mes prières, j'ai le concept que Jésus-Christ est mon sauveur et qu'il est mort pour nous? Comprenez-vous? Est-ce que ma prière est différente que quelqu'un qui est musulman, qui s'adresse à Dieu? Comprenez-vous? Non, mais c'est important juste de comprendre les nuances pour que on tombe pas dans le piège de dire, ben moi, je prie tout le temps à Dieu, mais OK, Jésus-Christ, est-ce qu'il est présent? Ou de prier Saint-Esprit, puis de mettre moins d'emphase sur... Tout à fait. L'esprit de son fils ou l'esprit de Dieu? Tout à fait. Exactement. Donc, je prie le Père. Je pourrais même prier le Père pour qu'il me console ou que le Père envoie le Consolateur. Ça revient. Et je prie au nom de Jésus parce que c'est lui qui intercède pour nous. Donc, dans la pratique, ben, je pense que c'est important qu'on finisse une minute encore avec la pratique. Est-ce que dans mes prières, j'ai les concepts qu'on a appris aujourd'hui? Donc, l'adoration, d'adorer Dieu, le Créateur, pour ce qu'il a fait, pour qu'il est présent parmi nous, pour l'envoi de son Fils, qui est notre Sauveur. Je peux m'inspirer des psaumes. Je l'ai mis ici. C'est très, très bien de s'inspirer des psaumes, de s'adresser à l'Éternel. Est-ce que je confesse dans ma prière que rien ne fasse obstacle à ma prière? Donc, confesser mes péchés pour que je sois en communion avec le Père. Puis je pense dans les prochaines semaines, Yannick va adresser d'attrister l'esprit, etc. Les remerciements, de remercier Dieu le Père qui nous a donné des bénédictions, que ce soit matérielles, spirituelles, les relations. Lui remercier aussi pour l'esprit qui est en nous, qui travaille en nous. Et ensuite, par rapport à nos demandes, que ce soit dans tous les domaines de notre vie, est-ce que je prie Dieu le Père à travers son esprit, qu'il nous console, nous convainc de nos péchés, qu'il nous éclaire? Ce qu'on veut faire, au fond, c'est on veut voir l'esprit agir en nous. Vous savez, dans la prière, par rapport à la relation le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la prière, comme chrétien, êtes-vous d'accord que c'est notre arme? Hein? C'est notre arme spirituelle. On n'a pas une arme comme de cette terre. Notre arme spirituelle, c'est l'esprit. Puis, ce que Dieu nous envoie, c'est qu'il nous dit, garde, une de tes armes, c'est la prière. Puis, ce que je vais t'envoyer, c'est l'esprit. Donc, ce qu'on veut surtout pas faire, c'est de diminuer l'esprit, diminuer le rôle de l'esprit, mais c'est de le comprendre, quel est le rôle de l'esprit en relation avec le Père et le Fils, pour que, que je m'adresse au Père, que je comprenne son rôle, que je comprenne que Jésus est le médiateur, que c'est grâce à lui qui m'a sauvé, qui m'a donné accès au Père. Et merci Seigneur pour son Saint-Esprit qui nous guide à chaque jour, à chaque étape dans notre marche chrétienne. Et on veut refléter, en d'autres mots, le fruit de l'Esprit dans nos vies. Donc, c'est une dernière question urgente, sinon on va s'arrêter avec un mot de prière. C'est bon? S'il y en a qui ont encore des questions, je comprends qu'on a couvert beaucoup de choses. Venez me voir après, ça va me faire plaisir d'en discuter. C'est bon? Prions. Oui, Père Céleste, c'est avec joie qu'on peut s'approcher à toi, Seigneur, et dire qu'on est un enfant de Dieu. Seigneur, merci pour ton Fils qui est mort sur la croix pour nous. On ne le mérite pas, Seigneur, et c'est vraiment une grâce. Merci, Seigneur, parce que tu nous as dit en quittant sur la terre que tu ne nous abandonneras point et tu vas être avec nous. Et tu nous donnes ton esprit, Seigneur, qui est avec nous, qui nous console, qui nous encourage. Seigneur, ma prière, c'est que pour chacun de nous, et moi le premier, Seigneur, que ton esprit puisse travailler en moi, que je puisse refléter le fruit de l'esprit, que je puisse avancer dans ma marche spirituelle. J'ai tant besoin de ton esprit, Seigneur. Merci pour ta sainte Trinité dans ton plan parfait. Merci pour la communion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Seigneur. Merci parce que nous sommes en communion avec toi. Garde chaque personne ici, bénis notre temps ensemble ce matin et on te prie au nom de ton Fils. Amen. Donc, merci à tous. Bon dimanche et la semaine prochaine, Yannick revient.